Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke, communément appelé le DPAE. Je suis William Dumas-April, étudiant de troisième année au baccalauréat en études politiques appliquées. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marie-Sophie Demoflis, docteur en droit et chargée de cours à forfait pour les programmes de DPAE. Bonjour Marie-Sophie.
Bonjour William, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Dave Guénette, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2023. Et à titre très personnel, je dois dire que je suis d'autant plus ravie de recevoir le professeur Guénette parce qu'il a été membre de ma soutenance pour ma thèse et nous avons pour projet de mener quelques recherches ensemble et ça va débuter dans les mois qui arrivent. Bonjour Dave, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Marie-Sophie, bonjour William, merci pour votre invitation et je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur différents sujets qui touchent à nos intérêts communs.
Le plaisir est partagé, je pense. Avant d'aborder justement là, certains sujets de vos recherches, on aimerait, je pense aussi, c'est le cas là, de nos auditeurs, auditrices, là, en apprendre davantage sur vous afin de mieux vous connaître. Là. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu là, de votre parcours académique, professionnel peut-être?
Oui, bien sûr. J'ai été formé en droit au premier cycle, au baccalauréat à l'Université Laval, à Québec. Au baccalauréat, je me suis intéressé à tout plein de branches du droit. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour les affaires publiques. Donc, le droit constitutionnel, le droit public m'ont toujours particulièrement interpellé. À la fin du baccalauréat, j'ai hésité, je pense comme plusieurs personnes entre différentes options, le barreau, la maîtrise, le cycle supérieur, d'autres domaines que le droit aussi. Et ultimement, j'ai décidé d'entreprendre une maîtrise dans un sujet qui m'avait toujours interpellé, pour lequel j'avais envie d'en savoir davantage, c'est-à-dire les études internationales, donc une combinaison du droit, de la science politique et des sciences économiques. Et c'était une maîtrise que j'ai entrepris vraiment par curiosité, par intérêt. Il n'y avait pas de plan de carrière bien défini à ce moment-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu dans cette maîtrise-là, dans les cours, plusieurs enjeux qui se rapportent évidemment aux relations internationales, mais également aux affaires publiques. Et c'est quand est arrivé le moment de faire la recherche de fin de maîtrise, où là, je me suis rendu compte que mes réflexes demeuraient des réflexes juridiques. Donc, la recherche de fin de maîtrise, l'essai ou le mémoire qu'on devait rédiger devait être interdisciplinaire, devait faire intervenir soit le droit, la science politique ou l'économique, au moins deux de ces trois branches-là. Et tous mes réflexes étaient des réflexes juridiques. Donc, c'est ça, j'avais conservé ceci, évidemment, de mon baccalauréat. Et donc, j'ai élaboré un projet de recherche sur la modification constitutionnelle qui n'est pas vraiment un sujet d'étude internationale, mais pour lequel il y avait de l'interdisciplinarité. Et j'ai réfléchi ce projet-là pour qu'il soit de nature comparative. Donc, encore une fois, on est loin de l'international, mais il y avait quand même cette dimension-là externe au Québec et au Canada. Et éventuellement, ce projet de mémoire est devenu un projet de thèse que j'ai travaillé toujours à l'Université Laval. Et donc, mon projet portait sur la modification constitutionnelle dans ce que j'appelle des sociétés fragmentées, des sociétés qui se composent de plus d'un groupe culturel, national ou linguistique. Et donc, j'ai fait un doctorat, comme je le disais, sur ce sujet-là à l'Université Laval à Québec, en co-tutelle avec l'Université catholique de Louvain en Belgique. J'ai défendu ma thèse à l'été 2020 et ensuite j'ai entrepris un post-doctorat à la faculté de droit de l'Université McGill où j'ai voulu travailler sur un sujet très important au Canada, le fédéralisme coopératif. Comment est-ce que les divers ordres de gouvernement viennent à collaborer entre eux et à parfois ne pas collaborer entre eux, mais tout de même à avoir des relations intergouvernementales. C'est un post-doctorat que j'ai fait durant une période de 3 ans, ce qui m'a amené à l'été 2023, où j'ai été embauché ici à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et où je suis particulièrement heureux de pouvoir évoluer professionnellement.
Merci pour ce tour d'horizon de ton parcours. Alors, tu parlais justement d'interdisciplinarité. Le DESS en droit et politique appliqué de l'État est justement fondé sur l'interdisciplinarité entre le droit et la politique. et on retrouve cette interdisciplinarité dans plusieurs de tes ouvrages qui traitent de façon générale, ainsi que tu le disais, du fédéralisme, de la modification constitutionnelle, des institutions politiques. Justement, dans l'ouvrage extirpé de ta thèse de doctorat, j'indique le titre, « Le fédéralisme consociatif et la révision constitutionnelle, perspectives comparatives sur la Belgique, le Canada et la Suisse », paru en 2023, tu analyses la révision constitutionnelle dans les sociétés fragmentées comme le Canada, la Belgique, la Suisse, ainsi que tu nous le disais. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est selon toi, quels sont les principaux obstacles juridiques et les principaux défis politiques qui freinent la modification constitutionnelle au Canada ? Et plus largement, comment les interactions entre le droit et la politique façonnent ces processus dans une fédération fragmentée ?
Oui, je réponds à vos questions, mais avant, je fais peut-être un léger détour justement par l'ouvrage que tu as mentionné, Marie-Sophie, qui est effectivement ma thèse de doctorat modifiée pour être publiée en monographie. Et donc, dans ma thèse, je me suis intéressé, comme je le disais, à comment est-ce que les sociétés fragmentées, sociétés comme le Canada, par exemple, qui est composée de plus d'un groupe historiquement reconnu, les anglophones, les francophones, les peuples autochtones, mais aussi comme la Belgique, où il y a les flamands, les francophones, les germanophones ou encore la Suisse, trois langues officielles, quatre langues nationales, comment est-ce que ces sociétés-là en viennent à modifier leur constitution de manière à tenir compte ou au contraire à ne pas tenir compte du fait qu'elles sont des sociétés fragmentées? Et donc, comment est-ce que les différents groupes qui composent la société, il peut y avoir un groupe majoritaire et un certain nombre de groupes minoritaires reconnus par la Constitution, bien, quel est le rôle que la Constitution donne à ces groupes-là dans le cadre du processus de modification de la Constitution? Et donc, par exemple, en Belgique, il y a toutes sortes de règles de double majorité. En Suisse, il y a un référendum constitutionnel dans lequel il faut qu'il y ait un certain nombre de cantons et une majorité au niveau suisse pour qu'une révision puisse entrer en vigueur. Et bien, au Canada, il y a toutes sortes de règles. Il y a cinq procédures différentes de modification de la Constitution qui peuvent octroyer des rôles à certains égards aux différents groupes qui composent la société. Donc, ma thèse portait sur ce sujet-là, vraiment. Comment est-ce que ces sociétés-là en viennent à modifier leur Constitution? Votre question sur grosso modo, si je reformule, les obstacles politiques et juridiques à la modification de la Constitution au Canada, mais au niveau juridique, les obstacles, c'est les règles formelles de la procédure de modification de la Constitution qui sont, à certains égards, particulièrement rigides. Et donc, si j'y vais rapidement, là, je le disais, cinq procédures différentes pour modifier la Constitution canadienne, deux procédures unilatérales, celle qui appartient au Parlement fédéral, celle qui appartient aux provinces individuellement, procédure assez flexible, donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle juridique. On pourrait même dire que c'est une particularité du cas canadien d'offrir des formules de modification constitutionnelle comme ça, unilatérales. Ça permet un peu de flexibilité dans le cadre de la procédure de modification de la Constitution. Il y a une procédure bilatérale de modification qui peut être mise de l'avant par les deux chambres du Parlement fédéral et par une ou quelques provinces, mais jusqu'à maintenant, ça a toujours été une seule province, qui est également une procédure assez souple et qui permet de modifier certains enjeux. Ce que la Cour suprême appelle des arrangements spéciaux que contiendrait la Constitution canadienne qui concernerait une seule province ou encore une région, quelques provinces. On peut penser, par exemple, ici au tracé des frontières interprovinciales ou encore au bilinguisme à l'intérieur d'une province qui peut être modifié par cette procédure-là. Et les deux autres procédures, ce sont les procédures complexes, les plus difficiles à mettre de l'avant. La procédure du 750, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est la procédure normale de modification pour laquelle on a besoin des deux chambres du Parlement fédéral, d'au moins sept provinces dans lesquelles on retrouve au moins 50% de la population des provinces. Et la dernière procédure, c'est la procédure de l'unanimité, le Parlement fédéral et les 10 provinces. Donc, les obstacles juridiques, c'est la difficulté d'en arriver à un consensus qui va permettre d'aller chercher ces deux derniers degrés de consentement-là, donc le 750 et l'unanimité. Cette procédure de modification-là, elle existe depuis 1982. C'est le fameux rapatriement constitutionnel, le rapatriement de la Constitution canadienne. Donc, avant 1982, c'était plutôt flou la manière de procéder pour modifier la Constitution canadienne. On sait qu'on devait avoir l'accord du Parlement britannique. Donc, c'était le Parlement britannique qui allait ratifie, si on veut, le souhait des autorités canadiennes de modifier la Constitution, mais l'ambiguïté se trouvait à l'intérieur même du Canada. Quel degré de consentement est-ce qu'on avait besoin pour demander au Parlement britannique de modifier la Constitution? Comment est-ce qu'on devait procéder? Et ultimement, il y a eu des renvois de la Cour suprême sur cette question-là en 1981-1982. Et ça a amené au rapatriement qui a mis en place beaucoup plus de clarté dans le processus de modification, mais aussi de la rigidité. Comme je disais, les procédures du 750 et de l'unanimité. Donc ça, c'est un peu les obstacles juridiques. Les obstacles politiques, bien évidemment, sont dépendants de la réalité juridique. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler depuis le milieu des années 90 une espèce de fatigue constitutionnelle. Donc le rapatriement, c'était un peu l'aboutissement de décennies de tentatives de rapatrier la Constitution canadienne et donc de décennies de négociations constitutionnelles entre le fédéral, différents gouvernements fédéraux à travers le temps, hein, et les provinces sur comment est-ce qu'on pourrait s'entendre pour rapatrier la Constitution et ensuite la modifier ici même au Canada. Lorsque la Constitution a été rapatriée, sans l'accord du Québec, hein, on s'en souvient, le Québec n'a pas signé la Constitution de 82, mais était formellement en désaccord avec le rapatriement. Mais lorsque la Constitution a été rapatriée, on a voulu corriger cette erreur historique-là. Donc, on a poursuivi les négociations constitutionnelles entre le fédéral et les provinces. On n'a pas été en mesure de s'entendre. Ça a donné forme à deux échecs constitutionnels majeurs. L'accord du Lac-Meech, l'entente de Charlottetown, qui a été suivie quelques années plus tard par le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, le deuxième référendum. Et donc, depuis ce moment-là, on a un peu laissé de côté les négociations constitutionnelles. En fait, on a complètement laissé de côté les négociations constitutionnelles, probablement essoufflées de ce qui s'était passé précédemment, mais aussi conscient de la tâche colossale que c'est que d'aller chercher un accord du 750, c'est possible. De l'unanimité, c'est quand même très, très exigeant. Hein. C'est peut-être la procédure de modification constitutionnelle la plus exigeante au monde, la procédure canadienne de l'unanimité. Et donc, ultimement, les obstacles politiques, quels sont-ils? Ben, c'est de passer outre cette fatigue constitutionnelle-là pour décider de remettre les enjeux constitutionnels au devant de la scène, d'accepter que l'échec est toujours possible en matière de modification constitutionnelle. Donc, les acteurs politiques cherchent bien rarement des échecs. Hein. Au contraire, on veut, quand on est en politique active, changer les choses. On ne veut pas se buter toujours à des échecs. Mais si on veut remettre le dossier constitutionnel au devant de la scène, ben, il faudra accepter justement de revenir à la table, de négocier entre les premiers ministres, premières ministres du fédéral et des provinces pour en venir éventuellement à pouvoir avoir un nouvel accord constitutionnel qui permettrait de modifier la Constitution. Et ça me permet, je pense, un peu de répondre à votre troisième question, qui était « Quelles sont les interactions entre le droit et la politique dans le cadre d'une procédure de modification de la Constitution? » Bien, c'est un peu comme si les règles juridiques de la modification nous donnaient une idée. C'est la cible. Voici ce qu'on doit atteindre comme degré de consensus. Donc, si on veut modifier, par exemple, au Canada, la composition de la Cour suprême ou encore si on voulait abolir la monarchie, bien, on sait que le degré de consentement à atteindre, c'est celui d'unanimité, l'accord des deux chambres du Parlement fédéral et des 10 provinces. Donc ça, c'est la cible. Bien, tout à coup, ça donne aux acteurs politiques un peu quel est l'objectif à atteindre. On doit avoir un accord unanime entre le fédéral et les 10 provinces. Et donc, l'interaction, elle est un peu là, en ce sens où c'est les règles politiques qui vont, les règles juridiques, excusez-moi, qui vont dire aux acteurs politiques qu'est-ce qu'ils doivent atteindre comme degré de consentement et donc un peu les amener à se comporter de manière cohérente avec cette recherche-là de consensus.
C'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'on voit bien aussi l'interaction, justement, qu'il y a entre le politique là, et le droit. J'en profite aussi pour déplacer le sujet là, vers l'actualité plus récente. Là, le 25 novembre 2024, le Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec, au sein de la Fédération canadienne, qui est coprésidée là, par Sébastien Proulx et Guillaume Rousseau, a rendu public là, son rapport « Ambition, affirmation, action », également connu là, sous le nom là, de « Rapport Proulx Rousseau ». Quelques jours plus tard, là, j'étais pas présent au panel en personne, mais je l'ai vu là, en rediffusion sur YouTube. Sur le sujet que vous étiez présent, vous avez affirmé là, que la proposition, justement, ici d'une constitution québécoise était pertinente et que le comité avait bien démontré pourquoi. Bon, dans le cadre de ce balado qui vise à explorer les liens, justement, entre le droit et la politique, On observe que cette proposition repose à la fois sur une démarche justement juridique, mais également sur une volonté politique de renforcer l'identité nationale québécoise dans la Fédération canadienne. Bon, c'est vraiment une grosse prémisse, là, et on a plusieurs, justement, sous-questions par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Mais lorsqu'on parle d'une constitution québécoise, est-ce qu'elle aurait, selon vous, là, une réelle portée juridique ou il s'agirait là, davantage d'un geste qui est symbolique, d'un geste qui est politique?
Oui, c'est une très bonne question. Et ça me permet de revenir un peu sur le début de la présentation que vous avez faite de cet enjeu-là. La modification constitutionnelle et donc possiblement adopter une constitution québécoise, c'est quelque chose qui est vraiment entre le droit et le politique. Hein. La constitution échappe à la discipline uniquement juridique et elle a évidemment des implications bien au-delà du droit. Donc, dans la science politique, dans la politique active et même dans d'autres branches du savoir. Pour revenir à votre question sur la Constitution québécoise, en fait, le comité, c'est intéressant, parle de Constitution québécoise codifiée. Et ce que ça laisse sous-entendre, c'est que le Québec a déjà une constitution. Et effectivement, c'est le cas. Hein, dans la Fédération canadienne, toutes les provinces ont une constitution. C'est simplement qu'elle n'est pas codifiée, sauf pour la Colombie-Britannique, qui a un Constitution Act, qui est une bonne partie de la constitution de la Colombie-Britannique est un document codifié. Et donc, le Québec a déjà une constitution informel, on peut dire une constitution avec un C minuscule, qui est cohérente avec l'héritage britannique du constitutionnalisme, et donc une constitution qui est formée de différentes lois québécoises, même quelques dispositions de la constitution canadienne, des principes, des règles de jurisprudence, etc. Et donc, l'intérêt des travaux du comité Prou-Rousseau et de cette proposition-là, plus généralement, d'adopter une constitution québécoise codifiée, il se retrouve à différents endroits. Un de ces endroits-là, c'est un peu la nature symbolique de ce que serait une constitution québécoise, une loi formelle qu'on appellerait constitution québécoise. Il se retrouve aussi dans, c'est un des intérêts personnellement que j'y vois, là, dans l'apport pédagogique pour la société, d'avoir un document, une loi québécoise, une constitution québécoise, mais qui explique quels sont les fondements de la société québécoise d'un point de vue institutionnel? Quelles sont nos institutions? On a déjà des lois là-dessus. On a la loi sur l'Assemblée nationale, on a la loi sur l'exécutif, par exemple. Mais quelles sont nos institutions dans un document qui est censé, justement, rapatrier toutes ces dispositions-là ensemble? Même chose pour la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte de la langue française. Donc, tout plein de lois comme ça qui sont fondamentales. On va souvent dire qu'une constitution, c'est une loi fondamentale. Bien, toutes sortes de lois comme ça qui existent déjà, qui sont fondamentales et qu'on pourrait donc mettre ensemble dans un même document. Et donc, en ce sens-là, on aurait une constitution québécoise codifiée. On peut presque parler, dans ce cas-ci, de codification à droit constant. On n'est pas obligé de changer l'état du droit pour mettre toutes ces dispositions-là de ces lois importantes, de ces lois québécoises-là importantes, dans le même document, mais ultimement, il y aurait donc cet intérêt, je dirais, pédagogique et symbolique d'avoir un document Constitution québécoise, même en ne changeant pas l'état des choses. Parce qu'évidemment, le comité Prou-Rousseau propose une Constitution québécoise dans le cadre d'un Québec-État fédéré. Là. C'est pas une démarche indépendantiste, c'est pas une démarche qui vise à modifier l'état des choses, c'est une démarche qui vise un peu à prendre le Québec tel qu'il est en ce moment et à proposer que le Québec, province, se dote d'une constitution. Maintenant, il y a différentes questions qui se posent par rapport à ça, et c'est peut-être un peu là où je vais en venir à mieux répondre à votre question. Parmi ces questions-là, on peut penser à qu'est-ce qu'on met dans la constitution, justement, est-ce qu'on fait une codification à droit constant? On ne conserve que ce qui existe déjà et on le met dans la Constitution ou est-ce qu'on ajoute des choses dans la Constitution? Est-ce qu'on mène un processus plus large qui vise à dire voici ce qui existe déjà, qui devrait faire partie de la Constitution québécoise, mais voici aussi ce qu'on devrait y ajouter? Si on prend la peine de faire l'exercice d'adopter une Constitution québécoise, il y a peut-être des choses qu'on devrait y ajouter et ça, c'est un choix politique qui est à faire par les acteurs politiques en place. Autre question importante, comment est-ce qu'on l'adopte, cette Constitution-là? Une constitution, c'est c'est pas une simple loi ordinaire. À tout le moins, ça peut ne pas être une simple loi ordinaire. Comment est-ce qu'on veut adopter la Constitution? Est-ce qu'on veut le faire dans un grand moment symbolique comme un référendum ou est-ce qu'on choisit de ne pas aller vers cette possibilité-là? Est-ce qu'on veut mener des consultations publiques? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une démarche constituante? Bref, ça suscite toutes sortes de questions sur le moment constituant quand on adopte la Constitution et ensuite sur comment est-ce qu'on va la modifier, cette Constitution-là, une fois qu'elle existe, comment est-ce qu'on va mettre des règles de l'avant? On en parle un peu plus tôt, hein, c'était le sujet de ma thèse pour les sociétés fragmentées. Comment est-ce qu'on va en venir à modifier cette constitution québécoise-là lorsqu'elle existera? Donc, trois grandes catégories de questions. Et donc, ça me permet, comme je disais, de revenir à votre question qui était, est-ce que c'est une démarche qui aurait une portée véritablement juridique ou est-ce qu'on est plus dans le symbolique? C'est un peu des deux. Évidemment, une constitution québécoise va avoir une portée juridique en ce sens où ben, ce serait une loi de l'Assemblée nationale du Québec et comme toutes les autres lois, elle aura une portée juridique. L'ampleur de la portée juridique va dépendre de différentes choses. Est-ce qu'on ajoute des choses dans la Constitution? Mmh. Est-ce qu'on y va d'une codification à droit constant? Auquel cas, ben, la portée demeure sensiblement la même. La portée juridique ne change pas vraiment. Si on ajoute des choses, ben, là, on élargit la portée juridique de ce que serait une constitution québécoise codifiée. Est-ce qu'on donne un caractère supralégislatif à cette constitution québécoise-là, un peu comme la Charte des droits et libertés de la personne? Est-ce qu'on veut que la constitution québécoise, et je pense que oui, il y a un entendement commun en ce sens-là, est-ce qu'on veut que la constitution québécoise soit au-dessus des autres lois québécoises? Et donc, tout ça va avoir un impact sur la portée juridique de la Constitution québécoise. Mais il y a aussi une dimension symbolique, évidemment. Si on veut aller de l'avant avec un document, Constitution québécoise, une nouvelle loi qui serait une constitution, ben c'est parce qu'il y a une plus-value symbolique sur la société québécoise, sur l'identité québécoise, d'aller de l'avant avec une telle démarche.
Et justement, là, il y a un peu ici, de ce que je constate, une volonté d'institutionnaliser là, l'identité québécoise. Et là, ça me vient à poser la question, là, jusqu'où une province, justement, peut aller pour institutionnaliser son identité là, sans entrer en conflit là, avec la Constitution canadienne?
Oui, très bonne question. Le principe, faut partir du principe que la Constitution canadienne, c'est pas la Constitution du fédéral, c'est pas la Constitution uniquement des provinces, c'est la Constitution de l'ensemble du Canada. Et le Québec peut ne pas avoir adhéré à la loi constitutionnelle de 1982. Ça ne change rien à l'application au Québec de la Constitution québécoise dans son ensemble. Et donc, toute Constitution québécoise devra respecter la Constitution canadienne. Donc, tout projet de codification de la Constitution québécoise devra respecter la Constitution canadienne. Maintenant, si on y va d'une perspective comparée, moi je suis un comparatiste dans plusieurs de mes travaux, dans une perspective comparée, c'est la norme pour les entités fédérées d'avoir, dans les systèmes fédéraux, d'avoir des constitutions codifiées. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Allemagne, en Australie, dans la très grande majorité des systèmes fédéraux, il va parfois y avoir des restrictions. Voici ce que la Constitution des États fédérés ne peut pas faire, voici ce qu'elle doit faire, voici comment elle doit être adoptée, voici comment elle peut être modifiée, etc. Et au Canada, il y en a bien peu de ces restrictions-là. En fait, il y a la loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que les législatures provinciales peuvent modifier leur propre constitution. Ça existait avant 1982, ça existait même avant 1867. La procédure, elle est bien connue. Elle est assez simple, c'est par l'adoption d'une simple loi. Et les restrictions, mais comme je le disais, c'est uniquement les restrictions, la restriction de base qui est de respecter la pyramide des normes canadiennes. Une constitution québécoise devra respecter la constitution canadienne. Et donc, ça laisse une très grande marge de manœuvre à ce qu'on peut mettre ou à ce qu'on peut choisir de mettre dans cette constitution-là. Au niveau de l'identité, tout ce qui pourrait être symboles nationaux, par exemple, préambule de la Constitution, on imagine assez mal des dispositions de la sorte entrer en conflit avec la Constitution canadienne. Il peut y avoir des enjeux, par exemple, sur la laïcité de l'État. C'est un débat qui est qui est d'actualité. Est-ce que le modèle québécois de laïcité ou encore est-ce que le modèle québécois d'intégration nationale peut entrer en conflit avec, à certains égards avec des dispositions de la Charte canadienne? Il y a la disposition de dérogation qui existe à ce niveau-là et que le gouvernement actuel utilise déjà à quelques reprises. Mais outre ces enjeux-là proprement identitaires, le reste de, pour ce qui est du reste de la Constitution québécoise, on imagine moins aisément des conflits, à moins que le constituant québécois souhaite faire des changements structurants, abolir la charge de lieutenant-gouverneur, par exemple. Bien, ça, évidemment, il ne peut pas le faire. Donc, il y a des normes assez générales à respecter, mais il y a quand même une très grande marge de manœuvre que le Québec, dont le Québec dispose dans le cadre de cet exercice-là.
OK. Très intéressant. Oui.
Tu parlais justement de l'identité. La question qu'on souhaiterait poser avec William est la suivante. Est-ce davantage le droit qui va façonner l'identité politique du Québec ou est-ce plutôt les revendications politiques liées à l'identité qui tentent d'obtenir une certaine légitimité à travers le droit?
Oui, c'est une très bonne question aussi. Moi, je le vois un peu comme un processus dialogique, c'est-à-dire un processus où l'une de ces deux dimensions-là va en venir à influencer l'autre. Mais la dimension peut-être la plus structurante entre les deux, c'est ce qui existe déjà. C'est l'identité d'une société en tant que telle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on ne peut pas créer par le droit quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas, avec une constitution provinciale, créer une identité provinciale si elle n'existe pas à l'avance. On peut penser au Québec, on peut penser à n'importe laquelle des autres provinces canadiennes. S'il n'existe pas d'identité albertaine, je pense qu'il y en a une d'une certaine manière, là, mais s'il n'en existe pas, on ne peut pas la créer par le droit. On ne peut pas adopter une constitution albertaine et dire « les Albertains forment une nation fière et forte » s'il n'y a pas déjà ce sentiment-là. Donc, le droit peut cristalliser, peut d'une certaine manière propulser ce qui existe déjà. C'est pour ça que je disais que c'est un processus dialogique. Mais le droit ne peut pas, à mon sens, dans ce domaine-là, le droit ne peut pas créer à partir de rien. Et il y a différents exemples de ça. Je vais vous en donner quelques-uns, mais j'ajouterais aussi que le droit ne peut pas non plus nier entièrement ce qui est. Ce n'est pas parce que quelque chose existe et qu'on inscrirait dans le droit ou que ça n'existe pas ou qu'au contraire, qu'on refuse de le reconnaître par le droit qu'on va en venir à anéantir ce qui existe déjà. Un bon exemple de ça, c'est le refus pendant des décennies du Canada anglais de reconnaître le Québec comme une nation ou encore comme une société distincte. Bon, il y a eu des résolutions de la Chambre des communes en ce sens-là en 1995 et en 2006, mais c'est une revendication de long terme du Québec d'être reconnu dans la Constitution canadienne comme une société distincte ou encore comme une nation. On peut dire que c'est le cas depuis 2022, le projet de loi 96. Le Québec a inscrit son existence nationale à l'intérieur de la Constitution canadienne, de la partie québécoise de la Constitution canadienne. Mais ce n'est pas une reconnaissance à proprement parler du Canada anglais. Cette reconnaissance-là n'est pas venue du partenaire canadien. Elle a plutôt été ajoutée par le Québec lui-même. Et donc, on pourrait dire qu'il y a un déni de reconnaissance constitutionnelle du Canada anglais, de la réalité sociale distincte du Québec. Et ce n'est pas parce qu'on a nié cette reconnaissance-là que la réalité sociale distincte en est venue à ne plus exister. Au contraire, ça l'a peut-être même raffermi à certains moments. Il y a un parallèle ici certainement à faire, par exemple, avec la Catalogne en Espagne, où les autorités catalanes ont revendiqué une meilleure reconnaissance, un partenariat différent avec l'État espagnol pendant de nombreuses années. L'Espagne a toujours refusé et ça a mené à ce qu'on a vu il y a une dizaine d'années, un référendum sur l'indépendance qui n'a pas très bien tourné, où il y a eu de la brutalité policière et tout. Et donc, bref, ce n'est pas parce que le droit refuse de reconnaître quelque chose que cette chose-là n'existera pas. Ou n'existera plus. Mais comme je disais, le droit peut certainement propulser un peu la construction d'une identité nationale. Et un exemple de ça, c'est la Charte canadienne des droits et libertés au Canada. Quand la Charte canadienne est adoptée en 1982, le Canada est dans une période assez trouble. C'est quelques années après la commission Laurando-Dunton sur le biculturalisme et le bilinguisme, le comité de l'unité canadienne, la commission Pépin-Roberts. Et donc, le Canada est dans un exercice où il cherche quelle est sa véritable nature entre différentes propositions. Il y a la proposition un peu plus québécoise des deux peuples fondateurs. Il y a d'autres propositions, celle d'un État multiculturel, celle d'un État, on pourrait dire aujourd'hui, en 2025, post-national. Bref, il y a différentes visions de ce qu'est le Canada. Et le premier ministre canadien de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, ben, en vient à imposer la sienne, évidemment, avec les partenaires canadiens, sa vision qui serait celle d'un État de droits et libertés. Et donc, la Charte canadienne, lorsqu'elle est adoptée en 1982, elle est vue à ce moment-là, oui, certainement comme un instrument de protection des droits et libertés, mais aussi comme un instrument de construction d'une identité nationale autour d'un document fondamental très important auquel l'ensemble de la communauté politique canadienne pourrait s'identifier, un document auquel tous pourraient s'identifier, être fiers, un instrument duquel ou un instrument juridique, une charte qui agirait comme une espèce de liant entre l'ensemble des composantes de la communauté canadienne et qui serait donc un élément de construction de l'identité nationale. Est-ce que ça a fonctionné? Ben, probablement pas entièrement, mais on peut constater qu'en partie, oui, ça a un peu fonctionné. Et donc, comme je disais, ben, le droit peut participer à cet exercice-là de construction d'une identité nationale, mais il peut pas partir de rien. Mm-hmm. Donc, il y aura un peu cette influence mutuelle-là entre ce qui existe, une identité politique quelconque, certaine, et le droit, et les deux peuvent se nourrir l'un l'autre.
Merci beaucoup, M. Guénette. C'est très intéressant, aussi très pertinent, je pense, pour justement là, des étudiants là, qui sont dans un programme où l'interaction entre le droit et la politique là, est constamment présente. Chers auditeurs, chères auditrices, vous venez d'écouter « Affaires d'État, des collines aux tribunaux », le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode, tout autant que nous, avec notre invité, professeur Dave Guénette. Je m'appelle William Dumais-April et je remercie également ma co-animatrice Marie-Sophie Demoflis.
Merci.
Pour davantage d'informations sur le balado ou sur les nouveaux programmes en droit et politique appliqués de l'État, n'hésitez pas à nous écrire là, au dpae.droit@usherbrooke.ca ou tout simplement là, de visiter notre site web de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.